Made in France Première Vision, en partenariat avec l'Institut français de la mode, présente les 5e rencontres du Made in France. À l'occasion de la rentrée, ce cycle de 6 tables rondes se penche sur les nouvelles approches collaboratives mises en place par les acteurs hexagonaux des secteurs du textile, du cuir et de la confection. Chapitre 1. Ressouder les filières, de la matière première au produit fini. Introduit par Nathalie Ruel et Pascal Gautran. Animé par Pascal Gautran.
Bien, bonjour à tous.
Et à toutes.
Nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreux et aussi...
Nombreuses ? On n'a pas préparé, je vous promets qu'on ne l'avait pas préparé.
Je crois que ça se voit, Nathalie. Donc nous sommes ravis de vous accueillir pour ces 5e rencontres du Made in France, organisées donc en collaboration entre Première Vision et l'Institut français de la mode. Donc je remercie Nathalie Ruel, professeur à l'Institut français de la mode, d'avoir activement contribué à leur conception. C'est l'occasion pour mettre en avant l'ensemble des acteurs des industries du textile, du cuir et de la confection, dont vous retrouvez un joli panel à côté dans le salon.
Alors on a des mots qui nous sont venus quand on a travaillé sur la préparation de ces 2 jours de conférence qui complètent complètement le salon et la rencontre que vous pouvez avoir avec les acteurs des différentes filières. Plein de mots nous sont venus, des mots qui, entre autres, ont toujours existé et ont toujours été importants dans notre profession, mais qui ont peut-être pris encore plus d'importance du fait de la crise sanitaire. Alors, c'est des mots comme coopérer,
collaborer,
échanger, on a mis des verbes,
dialoguer,
partager,
s'enrichir,
profiter,
faire profiter,
réinventer,
démultiplier,
positiver, et tout ça avec un esprit de générosité. Donc on s'est dit, bon, bah, tout ça, ce sont des éléments très importants qui vont permettre d'avancer encore mieux dans cette nouvelle crise, mais une nouvelle crise qui est en fin de compte une opportunité importante, puisqu'on s'est rendu compte également que cette crise sanitaire a accéléré la redécouverte, entre autres, des filières locales, et de l'importance du dialogue et des partenariats et de toutes les pratiques coopératives. Nous sommes sincèrement convaincus également que pour répondre aux challenges qui sont de plus en plus importants d'éco-responsabilisation, réindustrialisation, mondialisation, il est grand temps, il a toujours été temps, mais il est encore plus important et plus nécessaire donc de faire front commun et de partager toutes les initiatives qui peuvent être faites. Et il y en a beaucoup, tant au niveau régional, donc local, on va avoir une approche locale géographique, mais également avec une approche de filière, puisque comme Pascal le disait, on s'est intéressé, on a invité des gens aussi bien du textile, du cuir ou de la confection.
Donc ces 2 journées, découpées en 6 chapitres, vont permettre d'explorer un peu les coulisses de ce secteur en transformation permanente et permettre de donner la parole évidemment à un nombre d'acteurs très engagés. On va en avoir aujourd'hui et demain. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail, ce matin nous allons commencer avec cette thématique autour de ressouder les filières de la matière première au produit fini.
Cet après-midi, on réfléchira et on échangera ensemble sur la mutualisation des outils, donc des outils collectifs.
Ce soir, ce sera au tour de s'engager ensemble pour une chaîne de production plus transparente.
Demain matin, on travaillera sur les initiatives autour de la mise en réseau.
Suivi
d'une autre réflexion autour de toutes les initiatives du R3i Lab sur tout ce qui peut aider à la compétitivité des entreprises.
La sixième séance et dernière, qui conclura ce cycle de rencontres, tourne autour de la notion de la réinvention de l'entreprise plus citoyenne, avec de nouveaux modèles possibles, et l'introduction de ce rendez-vous sera assurée par la présence d'Arnaud Montebourg. Voilà, merci Nathalie.
Et enfin, donc on voulait vraiment que ces deux jours de conférence, au-delà du salon et en parallèle du salon et des rencontres que vous pouvez faire sur le salon, soient l'opportunité de décoder tous les changements qui sont à l'œuvre dans le secteur de la mode au sens large, et de faire germer des idées et des amitiés, puisqu'on pense vraiment, qu'on le sait par la fidélité qu'il y a dans notre secteur, que l'amitié permet aussi de faire avancer beaucoup de choses.
On vous souhaite à tous
de très bonnes journées.
Et à toutes.
Ah, pardon.
Une très bonne journée, effectivement, et on espère que ce programme vous intéressera. Merci.
Alors, à tout à l'heure.
Donc, pour cette première table ronde, j'appelle Jean-Louis Brun, directeur général de Brun de Vientiran et cofondateur du collectif Tricolore. Mathieu Hepsin-Goudin, cofondateur de Virgocop et de Tissage de Temps. Alors, si vous n'avez pas d'aussi grandes jambes que Jean-Louis, vous pouvez prendre l'escalier qui est là-bas au bout. Vas-y, je t'en prie. Olivier Guillaume, président de Safilin. Thomas Uriez, président de 1083 et initiateur de Moncoton, notamment. Julie Parizet, directrice innovation à la Confédération européenne du lin et du chanvre. Alors, c'était assez logique en fait de positionner cette première thématique en tout début de ces rencontres, puisque là on va évidemment partir vraiment de la matière première, du champ, j'ai envie de dire. L'histoire des matières premières, elle est très particulière en fait dans notre industrie, puisque le lin, on retrouve des traces qui remontent à 36 000 ans avant Jésus-Christ, au fond de grottes du Moyen-Orient. 10 000 ans pour la laine, les premières traces, mais je pense que ça existait bien avant. Au XVIIIe siècle, on a un gros boom du coton, principalement jusque-là cultivé en Asie, mais qui va venir révolutionner l'usage des textiles en Europe. Plus tard, au XIXe, on fait face à une industrialisation de l'industrie lainière, où on va non plus uniquement mettre à profit les élevages ovins locaux, mais aller se tourner vers un nouveau type d'élevage, plus standardisé, plus industrialisé, dans l'hémisphère sud. Et puis la grosse révolution des matières premières, évidemment, c'est au XXe siècle, tout d'abord au tout début du siècle, avec l'arrivée des matières artificielles, qui assez vite, à partir de la Seconde Guerre mondiale, va voir venir les matières synthétiques. Et là, vraiment, toutes ces matières naturelles utilisées pendant des millénaires, finalement, vont perdre des parts de marché. Aujourd'hui, le découpage est assez flagrant. Au niveau mondial, 70% des matières premières sont synthétiques, une vingtaine de pourcents pour le coton, et le reste partagé sur les matières naturelles, un petit peu d'artificiel. Le lin, c'est moins d'1% au niveau mondial, la laine à peine plus d'1%, si on compte toutes les matières animales lainières. Donc c'est une vraie révolution, mais finalement, si on y regarde de près, qui n'a eu lieu qu'il y a quelques décennies, un siècle tout au plus. Julie, il y a une exception dans tout cela. Donc, petit à petit, les matières ont fui l'Europe. On les a plutôt développées ailleurs, les matières naturelles en tout cas. Julie, il y a quand même une exception pour le lin. Pourquoi est-il non délocalisable ?
Bonjour à tous. Alors, un chiffre déjà à retenir, le lin, c'est au niveau de sa zone de production, c'est 80% de la production mondiale, c'est produit sur 3 pays. Sur cette bande qui s'étend de Caen à Amsterdam, c'est 80% de la production mondiale. Et c'est ce qui en fait une spécificité aussi, en termes de souveraineté et de leadership ouest européen. Non délocalisable parce qu'elle repose sur plusieurs atouts au niveau de la culture, des atouts qui sont géoclimatiques et également des atouts liés à des savoir-faire d'excellence au niveau agricole. L'expertise transmise de génération en génération est incarnée par le duo de l'agriculteur et du tailleur qui fonde l'ancrage territorial de cette culture à la fois vertueuse et également au niveau international avec une grande renommée.
Alors, il n'y a pas que le lin qui n'est pas délocalisable. Thomas Huriez, lui, non plus ne l'est pas. Tu es né à Romans ou à côté et tu y restes. Tu y développes tout un écosystème depuis pas mal de temps. Et en fait, tu dis que le plus grand champ de coton en France, il est dans nos armoires.
Bonjour à tous.
Et à toutes.
Effectivement, c'était trop tentant, on est désolé, mais on trépignait. Effectivement, en fait, il y a plein de fibres naturelles qui poussent dans nos champs, il y a malheureusement plein de fibres synthétiques qui poussent dans nos usines, et en fait, toutes ces fibres-là, elles sont très complémentaires. Les agricoles, elles ne poussent pas sur les mêmes périmètres, dans les mêmes conditions, elles n'ont pas les mêmes attributs. Donc certaines sont plus douces, d'autres sont plus jolies, d'autres sont plus ceci, plus cela. Et en fait, toutes ces fibres non recyclées, en quelque sorte, il est intéressant, il nous semble, chez 1083, d'être dans la diversité. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais, là, si on parle des fibres naturelles, le coton a une part majeure des fibres naturelles par rapport au lin et à la laine. Et je pense que si on devait les opposer, ce serait une erreur, parce qu'en fait, elles ont chacune leurs caractéristiques, chacune leurs forces et leurs faiblesses. Et agricolement parlant aussi, si demain, le lin qu'on adore tous, on devait le cultiver avec la même intensité partout dans le monde, eh bien, on viendrait sur-irriguer des parties où il n'y a pas d'eau, et on viendrait finalement faire une monoculture qui n'est pas trop possible pour le lin, mais en tout cas, on viendrait produire en masse, et c'est ce côté massif qui est le problème de la mode. C'est-à-dire qu'on consomme trop, on produit trop. Et du coup, si on vient surproduire une seule des fibres, quelle qu'elle soit, et bien en fait, ça posera des problèmes à cause de la quantité. Le problème, c'est la dose. Le poisson, c'est la dose. Et finalement, les seules fibres qu'il est pertinent, à notre sens, de recycler massivement, ce sont nos poubelles, c'est nos placards, en fait. Parce que là, plus on saura le faire, plus on désengorgera les poubelles, et moins on détruira les planètes par toutes les autres fibres qu'on va produire, soit en les cultivant, soit en les fabriquant quand c'est synthétique. Donc c'est pour ça que nous, depuis qu'on existe, depuis 2013, chez 1083, on a une mission. Cette mission, c'est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Donc tout l'argent qu'on gagne, tous les profits qu'on fait en vendant des jeans ou des baskets ou des t-shirts, ils ne sont jamais distribués en dividendes, ils servent tous à financer notre mission, donc l'économie circulaire. Et cette mission donc, qui nous a conduit à faire Mon Coton, à faire Volontaire, à faire plein de projets, à faire le jean infini, à chaque fois ce sont des initiatives d'économie circulaire. On va en changer cette année parce qu'elle répond à une problématique technique, l'économie circulaire, c'est très bien. Mais là aujourd'hui on a envie de monter à la cause racine, c'est-à-dire la surproduction. Donc ces prochaines semaines, la mission de 1083 va changer et ça va être de réduire la consommation et la production globale de jeans dans le monde avec des filières locales de proximité qui sont, à notre sens, le moyen de réduire la quantité par des filières de qualité. Donc c'est comme ça qu'on essaye d'avoir une démarche la plus globale et la plus cohérente possible. C'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, chez 1083, ça fait référence à notre mission. Et donc l'économie circulaire, qui est le cycle que l'on termine, qui va s'inscrire évidemment dans la prochaine mission, et bien nous a amené à faire Mon Coton, à faire Volontaire, à faire l'infini. Et à chaque fois, ce sont des initiatives qui visent à vider nos placards. Et en attendant de tout faire en économie circulaire, et bien le coton que l'on consomme, il est bio, et le lin que l'on consomme, il est français. Voilà.
Merci pour le scoop, Thomas. 1083, c'est avec d'autres marques évidemment un peu un champion de la collaboration. Vous travaillez beaucoup, tu travailles énormément avec d'autres acteurs sur les projets. Tu as cité Mon Coton ou d'autres. Donc comment, là en particulier sur cette notion de filière et sur les matières premières, ce qui est quand même très intéressant, c'est cette notion de collaboration entre des secteurs complètement différents. l'agriculture, qui est, ou l'élevage, qui sont centrés sur le cycle de la vie et, comme tu le dis justement, le cycle de la mode, qui, lui, est dans une accélération frénétique ces dernières décennies en particulier. Olivier, cette relation entre l'agriculture et l'industrie, comment tu la vis en tant que filateur de lin? Qu'est-ce qu'un tour de plaine en particulier?
Je dirais que cette relation, elle est primordiale. Tout à l'heure, Julie a mentionné un duo, qui est le duo liniculteur et tailleur. Je pense qu'on peut réellement parler de trio, puisqu'il y a vraiment une forte osmose entre le liniculteur, qui est celui qui travaille la terre, le premier transformateur, qui est le tailleur, et puis finalement, nous, le filateur, qui sommes le maillon, le lien entre ce monde agro-industriel et le monde de la mode à proprement parler. J'en veux pour preuve le fait que, à titre personnel, en tant que filateur, nous vivons, peut-être pas exactement avec le même stress, mais nous vivons au rythme de la culture du lin. Dès les semis et jusqu'à la récolte, je pense qu'on est... On a les mêmes préoccupations, les mêmes enjeux, et on les partage. On les partage pas seulement par la pensée, mais également en se rendant sur place. Un tour de plaine, pour moi, ça démarre finalement cette approche du monde agricole et de ce que vit l'uniculteur. Ça démarre dès les semis avec les premiers échanges avec eux. Et puis, c'est nourri tout au long de la saison par des rencontres, des visites de champs, des échanges avec le tailleur, mais également avec l'agriculteur qui vient nous partager ou nous solliciter d'ailleurs sur les actions à mener, de sorte en fait que eux comme nous puissions apporter le meilleur produit et le plus éthique possible aux autres maillons de la mode. Donc il y a vraiment, je dirais que c'est probablement assez particulier, propre à la filière lin, cette proximité géographique, mais proximité d'enjeux également.
Merci. Jean-Louis, qu'en est-il pour la laine chez Brin de Vientiran en 1808, c'est ça?
Oui.
Lorsque tes arrière-arrière grands-parents ont commencé l'activité, la laine, elle était, j'imagine, sourcée localement, puisqu'on n'est pas encore sur le modèle qu'on connaît aujourd'hui avec une importation de laine de l'hémisphère sud. Comment se passe la relation avec les éleveurs locaux, notamment la région d'Arles, avec le Mérinos d'Arles?
Alors, dès les origines, mes ancêtres allaient aussi chercher des laines du bassin méditerranéen grâce au marché de Beaucaire, qui les amenait tout près. Parce qu'on avait besoin, pour trouver des solutions, hein, comme le disait Thomas, les fibres sont différentes, elles ne sont pas supérieures ou inférieures. On avait besoin de laine des régions qu'on a, de la Porte, c'est Istanbul, hein, de Bagdad, etc. Mais on a toujours travaillé les laines de France, effectivement. On est encore aujourd'hui le premier client des bergers français en France. Le premier client tout court, c'est la Chine, mais le premier client en France, c'est encore nous. Et j'espère qu'on sera vite dépassé par d'autres entreprises qui se tourneront vers les laines de France. On y travaille ensemble, Pascal. Aujourd'hui, effectivement, nous veillons depuis des décennies à faire connaître les laines de France aux plus belles clientèles de France, parce que ces laines ont des propriétés particulières de feutrage, de moelleux, de chaleur, de régulation d'humidité, de bien-être, de confort, de santé. Elles sont, c'est pas les meilleures pour faire un costume super fin, mais elles sont les meilleures pour faire d'autres produits, que ce soit des couettes, des couvertures, des matelas dans certains cas, des futons. Elles ont des propriétés assez uniques et sur ces critères, elles sont plus performantes que toute autre laine au monde. Donc on veut les mettre en valeur. Hein, on y travaille ensemble, Pascal et d'autres, au sein du collectif Tricolore. Et dans notre cas, on est surtout tourné vers les laines du Sud, la région Sud-PACA, qui contient à peu près 500 000 moutons aujourd'hui, hein, 1300 élevages. Alors c'est en baisse, mais ce n'est pas une baisse forte. Hein, il y a 10% de moutons en moins depuis 10 ans, qui sont en gros les laines des Alpes, les Préalpes, et puis les Mérinos d'Arles que tu citais. Alors le Mérinos d'Arles, c'est la laine la plus fine de l'hémisphère nord. Elle est beaucoup moins fine que les laines de l'hémisphère sud, des Australiens qui proviennent de beaucoup plus de temps de sélection génétique. Mais ce sont de très belles laines. On a peut-être 400 000 mérinos. On n'a pas de statistiques fiables là-dessus, mais c'est à peu près 65% du cheptel. Et dans notre cas, effectivement, alors ça c'est un travail pour lequel je salue mon père, hein, qui a fait ce travail pendant 30 ans. Et je reprends le flambeau. Il est toujours à mes côtés. On est donc 7e et 8e génération, hein, tu le disais. On a voulu retrouver la qualité de mérinos qui s'était partiellement perdu. Ça reste un très beau mérinos, mais le mérinos d'Arles n'est pas, on avait des sources historiques qui en attestaient, il n'est pas exactement aussi fin et donc pas aussi doux, pas aussi chaud, pas aussi, il a des propriétés un petit peu inférieures à celles qu'il devait avoir au début du XXe siècle. Alors pourquoi ? Parce que bon, il avait été voulu par Louis XVI, hein, qui avait fait venir des mérinos d'Espagne, croisement des moutons français avec les mérinos, donc la race locale de la crolinque, est croisée avec le mérinos d'Espagne, dont les descendants sont à Rambouillet, et on obtient le mérinos d'Arles. Mais ce mérinos d'Arles, dans les années 30, peut-être à cause de la crise de 29, hein, il faut produire de la viande, et donc les agronomes le croisent à nouveau avec des races bouchères. Et là, le critère de la finesse n'est plus le premier critère. On produit plus de viande, mais la laine perd une partie de sa finesse. Mon père avait l'espoir que parmi les milliers d'éleveurs à l'époque, il y avait 2000 éleveurs encore à l'époque, certains aient conservé la race d'origine parce qu'ils ne l'auraient pas trop croisée. Donc il est allé chercher dans les mauvais élèves de la boucherie et il a trouvé un têtu, René Echen, paix à son âme, qui est parti il y a 2 ans, qui avait toujours des moutons d'une finesse qui est ce qu'on trouvait sans doute au début du XXe siècle, c'est-à-dire entre 19 et 20 microns, c'est un peu technique, mais bien plus fin que ce qu'on trouve ailleurs. Alors, il n'était pas le seul, on en a trouvé d'autres, et puis surtout, on a incité d'autres volontaires à renouveler leurs troupeaux avec les brebis des premiers et les béliers, et ainsi à affiner la laine, ce qui va assez vite dans le cas du mouton. Les générations sont assez courtes et l'effet phénotypique est assez rapide par rapport au génome. Et donc 30 ans, aujourd'hui entre 20 et 25 000 brebis, selon les années, qui ont une finesse éligible à cette qualité. Je précise qu'on a mis 7 ans à trouver les premières. 7 ans d'observation, d'analyse des laines, voilà, avant de trouver les premières. Et aujourd'hui, c'est un partenariat qui se poursuit dans la durée. Un nouveau membre du club cette année, quelqu'un qui a atteint les critères que nous demandons, des produits, du coup, des plaids, des écharpes, je ne suis pas ici pour faire de la pub, mais qui témoignent de cette qualité de fibre exceptionnelle, qui est vraiment le phyllum le plus fin de l'hémisphère nord, et même des partenariats au-delà, puisque nous, on est une filière en France, on est en train de ressouder la filière. Tu y travailles beaucoup, Pascal. Et donc, on est allé de l'éleveur au designer, puisqu'on a même impliqué l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle, très très haute école d'élèves qui font un double master en création et quasiment en ingénierie, je ne sais pas si on peut le dire, mais pour moi c'est ça, avec lesquels on a créé donc des couvertures, des plaids de très haute qualité, de très haut niveau de design. Le design allant de la conception du produit lui-même, hein, qu'est-ce qu'une couverture, qu'est-ce qu'un plaid, jusqu'à ses dessins, jusqu'à ses coloris. Et on crée des collections capsules pour mettre en valeur cette triple excellence, hein, donc une vieille manufacture, hein, très belle manufacture, je le dis, je ne l'ai pas créée, hein, donc j'en suis fier, mais c'est pas mal placé. Des éleveurs qui ont fait des efforts depuis 30 ans et cette école superbe à Paris, rue Saint-Sabin.
Le résultat, pour ceux que ça intéresse, est visible et on peut également le toucher, puisque c'est ça l'intérêt, sur le stand tricolore à côté. À côté, nous avons aussi un autre stand qui est celui des tissages d'OTAN. Et toi, Mathieu, tu incarnes ce lien entre agriculture au départ, au travers du projet que tu as cofondé qui s'appelle VirgoCop, et les tissages d'OTAN, qui est un nouvel atelier de tissage qui vient de s'implanter sur les traces d'un atelier précédent dans la région de Castres-Mazamet. Le chanvre n'a pas eu la chance du lin, on va dire. Comment ça se fait ? Pourquoi est-ce que sa culture a disparu en France ?
Bonjour tout le monde. Le chanvre, oui, effectivement, le chanvre n'a pas bénéficié des développements industriels qui ont été ceux du lin ou peut-être d'autres matières comme la laine et voilà, ou évidemment le coton, parce que il a subi en gros 2 effondrements dans sa production dans l'histoire. Un premier au 19e siècle. En fait, le chanvre a été utilisé pendant des millénaires à la fois pour fabriquer des vêtements à la ferme et pour les cordages et voiles de bateaux, qui était quand même son et c'était très important pour les paysans d'ailleurs, puisque c'était la matière première qu'on vendait, donc ça permettait d'avoir de la trésorerie, du cash, quoi. C'était l'agriculture de rente. Et lorsque la marine à vapeur apparaît au 19e siècle, c'est un premier effondrement, puisqu'on a besoin, on n'a plus besoin de voiles dans un premier temps, et donc évidemment moins de chanvre. L'apparition du coton massif de la révolution industrielle participe aussi au fait que les gens n'ont plus vraiment envie de porter des vêtements en chanvre. Ce qu'on peut comprendre quand on sort des vieux vêtements en chanvre dans les vieilles fermes. Hein, ce n'était pas particulièrement confortable, en tout cas tel que c'était fait à l'époque. Et le deuxième effondrement, comme tu l'as dit, donc apparaît après la Deuxième Guerre mondiale avec l'apparition des matières synthétiques. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais effectivement, des lois qui ont été passées, notamment aux États-Unis, qui ont criminalisé le chanvre en utilisant l'excuse, hein, je le dis tel que je le pense et tel que ça a été démontré par certains chercheurs, l'excuse des effets psychotropes du cannabis pour mettre en fait tout le chanvre dans le même panier. Et globalement, tout l'axe atlantique c'est un peu aligné sur cette position, ce qui explique aussi pourquoi il reste encore aujourd'hui un réduit d'industrie chanvrière dans les anciens pays du bloc soviétique, puisque eux avaient gardé un certain nombre de choses. Voilà. Donc, sur le chanvre, on part un peu de zéro. C'est-à-dire que tout est à inventer, puisqu'il n'y avait jamais véritablement eu de machine. Notamment pour les premières transformations, hein, je parle du défibrage, etc. Une fois qu'on a des fibres de qualité textile, on peut les passer dans les machines qui traitent le lin, notamment dans les filatures. Voilà, donc nous, ça a été notre ambition avec Virgocop, de remettre en place une filière textile, de mettre en place une filière textile chanvre en Occitanie. On est parti avec très peu de moyens, donc on a fait ça un peu à l'huile de coude. Et ben, aujourd'hui, on est content puisqu'on a eu cette année 75 hectares de chanvre à vocation textile. Ça, c'est très important parce qu'on est sur des méthodes culturales qui sont assez différentes. Parce que la France est effectivement aujourd'hui le plus gros producteur de chanvre en Europe de l'Ouest et un des plus gros producteurs de chanvre au niveau mondial, mais pas à vocation textile. Donc il y a vraiment des parcours culturels qui sont différents. Donc 75 hectares cette année, on espère 300 l'année prochaine et ainsi de suite, avec des outils de première transformation qui sont en cours d'amélioration, qui sont déjà présents sur le territoire en Occitanie. Et puis derrière, on travaille de concert avec les peigneurs et les filateurs pour aller jusqu'au fil. Et donc dans ce parcours, effectivement, on a eu la possibilité de racheter un atelier de tissage qui, sans ça, allait disparaître, qui était les tissages Pistres à côté de Castres. C'était un problème pour nous que cet atelier disparaisse pour deux raisons. D'une, parce qu'on en avait besoin pour produire les tissus dont on a besoin. Voilà. Et de deux, parce que vraiment, c'est chaque jour un peu plus mon intime conviction, mais je pense que c'est largement partagé. On a besoin que ces outils de transformation moyenne, en fait des petites industries, ce n'est pas un gros atelier, il y a 12 métiers à tisser, ce n'est pas gigantesque. C'est à terme peut-être une équipe de 5 personnes qui le fera tourner, mais c'est très important parce que ça permet à la fois la transmission du savoir-faire. Dans des bassins textiles qui ont beaucoup souffert, hein, Castres-Mazamet, même si aujourd'hui il y a un peu un retour, il y a une nouvelle respiration, mais avant c'était une usine tous les 3 km qui embauchait 500 personnes. On est vraiment passé de. Voilà. Donc il y a une question de transmission du savoir-faire, et je crois aussi vraiment dans une perspective écologique, sociale, etc., pour nous des outils très importants pour la résilience du territoire, pour le fait d'être capable de. Voilà. Et moi ce que je constate, pour reprendre les mots que vous avez utilisés en introduction, c'est que. Et vraiment, ce qui fonctionne dans notre projet, et je vois dans tout ce qui se passe ici, c'est la coopération. Quoi. C'est parce qu'on est plusieurs à travailler tous ensemble et on se donne des informations sur les problématiques techniques, etc. C'est comme ça qu'on arrive à s'améliorer. Voilà.
Alors, cette histoire de reprendre des ateliers, sinon ils vont disparaître. Thomas, tu es aussi familier de ça avec Tissage de France, qui est également exposant sur le salon. Tu as remonté la filière de la marque, tu es remonté à la fabrication, tu joues sur des projets en lien avec les matières premières. Finalement, le dialogue, il ne peut pas être uniquement réduit à la partie agriculture et industrie, il faut aussi le prolonger jusqu'au marché, jusqu'à ceux qui vont mettre sur le marché. Julie, quel est le rôle de la CELC là-dedans ? Dans ce dialogue supplémentaire avec la marque ?
Alors, la CELC, nous, à la différence de mes amis, on ne vend rien. Donc, la grande mission, c'est de créer un environnement favorable à la compétitivité de ces entreprises industrielles. Donc, il y a deux axes stratégiques qui sont l'innovation et le développement durable, et articulés autour de trois missions, informer, défendre, promouvoir, et qui s'appuient sur les qualités innovantes, écologiques de ces fibres, lin chanvre, et garanties aussi par des labels de traçabilité. Notre rôle à la CELC, c'est de, nous avons l'ambition de positionner le lin européen comme la fibre écologique performante sur l'ensemble de ces marchés. Donc, l'ensemble des projets collaboratifs et structurants qui sont initiés à différents niveaux, ça part de l'innovation avec des travaux sur l'optimisation des machines agricoles jusqu'à la valorisation de la biomasse au sens large, des fibres, de ses coproduits, jusqu'à avoir une démarche de collaboration avec le marché final, la marque, d'engager vraiment un dialogue pour favoriser, insuffler le réflexe lin, promouvoir en termes de spécificité toutes les valeurs différenciantes du lin européen.
Jean-Louis, vous êtes une entreprise intégrée chez Brin de Viantiran, donc vous êtes aussi une marque. Donc quelque part, vous intégrez toute cette filière avec en plus le dialogue avec les éleveurs que tu as raconté plus tôt. Comment est-ce que la marque finale peut tirer parti justement de tous ces éléments amont?
Depuis longtemps, ça nous permet déjà une maîtrise. Un chef cuisinier, il a toute sa brigade sous les yeux et il part de la matière première. Puis si possible, il a un potager ou des paysans qui ne sont pas loin. Et le local, c'est aussi une question de maîtrise. Parce que quand on s'est lancé, dans notre histoire a 213 ans, mais on s'est lancé beaucoup plus récemment dans les fibres précieuses. Le mohair en 61, hein, on était les premiers en Europe continentale, et puis ensuite le cachemire, l'alpaga, le lama, le yak, etc. On a bénéficié de cette intégration, puisqu'on part de la balle de laine et qu'on va jusqu'au produit fini, dans cette maîtrise. Parce que quand tu es une entreprise comme la nôtre, si certains viennent dans la région, je serais vraiment ravi de vous la montrer, c'est une succession d'ateliers, une quinzaine d'étapes, qui sont toutes les clients de la précédente et les fournisseurs de la suivante. Et on est en technologie cardée. Alors pour ceux qui connaissent, le cardage, c'est de la poésie. Hein. C'est pas une science exacte. C'est des machines à courant d'air. Et donc, ben on a tout le temps ce qui est à la limite d'être un défaut, mais ce qui est un trait de caractère d'un fil cardé. Donc, on a tout le temps besoin que les gens communiquent entre eux, nos artisans, nos manufacturiers, excusez-moi, pour corriger tout ce qui se passe. Ça ne se passe jamais comme prévu, en fait. Hein. En plus, on est une région de Mistral. Il suffit que le Mistral se lève, on perd 40% d'humidité et on ne peut plus carder ou filer comme on le faisait la veille. Donc ça, c'est déjà un atout qui nous a permis d'être spécialistes de ces fibres précieuses et d'échapper à la banalisation, de nous différencier pendant ces mêmes décennies, depuis les années 60, où la grande distribution s'est développée en France, où elle a mis une pression sur les prix, où elle a prétendu que c'était une œuvre humanitaire de vendre le moins cher possible, alors que n'importe quel économiste sait que quand on baisse la valeur ajoutée d'un pays, on baisse d'autant les salaires. C'est là au programme du cours de première année. Et donc, nous, on s'est évadé vers la qualité et on est toujours là. On est toujours là, grâce au travail de mon grand-père et de mon père, hein, voilà, que je me consacre à faire connaître. Hein, voilà, parce que je pense que c'est des valeurs d'avenir. Alors ensuite, ce local aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir que de plus en plus, on bénéficie de ces choix de non-délocalisation. On n'a jamais délocalisé une heure de main-d'œuvre. De proximité, de qualité, de partenariat, d'intégration de la filière aussi dans les partenariats amont, partenariats avec le design, parce que ça devient porteur. Et je me dis que des choix comme les nôtres, que viennent rejoindre beaucoup d'initiatives dont les invités ici et d'autres dans la salle sont des incarnations, ça vient rejoindre un grand espoir que j'ai, après avoir vu mes prédécesseurs trimer, travailler très très dur à contre-courant dans une situation hostile et avec des résultats qui étaient parfois décourageants. J'ai aussi vu les éleveurs de la région ne pas arriver à vendre leur laine. On était les seuls à leur acheter parce qu'on en avait besoin. Mais ils ne savaient pas à qui la vendre. D'ailleurs, ils ont en ce moment près d'une récolte de retard pour la plupart à cause de la situation sanitaire. Et donc, j'ai plaisir à voir qu'aujourd'hui, c'est porteur, c'est apprécié. Pour des raisons éthiques, pour des raisons peut-être d'un sentiment de solidarité, parce qu'on prend enfin conscience qu'on est tous dans le même bateau, finalement, et qu'en achetant tes produits, je me fais vivre aussi, parce qu'un écosystème économique, c'est un système mais qui n'est pas totalement ouvert, qui est ouvert, mais qui est mutuellement bénéfique. Et ça, c'est un grand espoir pour nous. C'est une raison de plus de continuer.
Alors, on va beaucoup revenir sur cette thématique, effectivement, d'écosystème pendant nos 6 chapitres. Nathalie l'abordera aussi dans le chapitre cet après-midi. Mais Thomas, toi, pour 1083, c'est quoi l'intérêt de remonter cette filière? Qu'est-ce que ça apporte à la marque que de faire écosystème avec d'autres marques ou avec tes fournisseurs?
Alors, pour comprendre un peu comment on a construit notre filière, déjà, il y a un point très important, c'est que moi, je ne suis pas du textile. J'étais informaticien et il y a 14 ans, j'ai ouvert une boutique de vêtements bio équitables. J'ai du mal à la 14e année parce que c'est l'année de mes 40 ans, donc j'ai du mal, mais j'y travaille. Et donc, quand j'avais 26 ans, j'ai créé une boutique de vêtements bio équitables où je vendais des vêtements plein de sens pour moi, mais qui n'étaient pas très beaux, qui étaient très ethniques, autant qu'éthiques. Et du coup, ça touchait une faible audience. Et moi, ça me frustrait un peu parce qu'en vrai, personne n'est pour le travail des enfants, personne n'est pour les pesticides. Par contre, si ces valeurs-là sont sur des vêtements moches, bah, personne ne les achète. Et donc, ces valeurs, elles ne dépassent pas le cercle du baba cool que j'étais, en quelque sorte. Et du coup, quand ces marques-là ont fermé, faute d'audience suffisante, d'activité suffisante, moi, je commençais à maîtriser mon métier de commerçant, parce que j'étais informaticien, donc je partais de loin. Et j'ai décidé de créer une marque de jeans, parce que le jean, c'est universel, tout le monde en porte, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans. Et je trouvais que c'était un véhicule beaucoup plus porteur de mes idées que le bonnet péruvien. Et donc, quand j'ai créé ça, c'était en 2013 en financement participatif, j'étais juste petit commerçant en roman, j'imaginais pas du tout, enfin c'était en cohérence avec mes idées, mais j'imaginais pas du tout que ça deviendrait la mode, que même ça deviendrait mainstream aujourd'hui, le local, le bio, etc. Et c'est génial de passer de marginal finalement à mainstream, c'est hyper encourageant. Et du coup, je suis devenu marque, en quelque sorte, en plus de commerçant, du fait de la fermeture de mes fournisseurs. Et puis après, donc quand j'ai créé cette marque, je me suis aperçu que c'était très compliqué de trouver des partenaires, des gens qui confectionnent encore, qui savaient encore confectionner. Donc j'ai trouvé un atelier de prototypage qui savait encore faire des jeans à Marseille. Ils étaient 2, maintenant ils sont 10, parce qu'on a grandi tous ensemble. J'ai trouvé un tisseur, 2 tisseurs qui ont accepté de me faire confiance pour une quinzaine, qui m'ont dit bah non, c'est pas pour nous. Les 2, c'est des tissages de Charlieu, et c'est Valerie Industrie qui est devenue Tissage de France, qui ont accepté de faire des tout petits volumes pour me rendre service parce qu'ils m'ont trouvé sympathique ou que sais-je. Ben grâce à eux, ces petits volumes sont devenus plus gros et du coup, on a pu reconstruire le tissage. En 2018, malheureusement, Valerie Industrie, donc un de ces 2 tissages, s'est retrouvé en difficulté. Donc nous, on en avait besoin. C'était 80% de nos tissus. Donc s'ils fermaient, c'était la catastrophe pour 1083. Mais on était un tout petit client pour Tissage de France. On ne représentait que 2% de l'activité globale de l'usine. Et donc, avec Denis Heinrich, qui est sur le stand là-bas, si vous passez sur le stand, vous pouvez lui faire coucou de ma part, qui est le directeur de l'usine et qui transmet actuellement son savoir-faire au nouveau directeur. Et ben en fait, on s'est retroussé les manches pour sauver cette usine. On l'a repris donc au tribunal de commerce en 2018. Là, on va commencer la 4e année. Ce n'était pas facile avec le Covid, mais voilà, on se retrousse les manches. Et tout ce système-là, alors certes, il est intégré, mais il n'est pas du tout exclusif. Parce qu'en vrai, le but, ce n'est pas que tous les jeans 1083 soient fabriqués dans notre écosystème propre. Le but, c'est de recréer une filière. Et donc, si on recrée une filière, on ne peut pas se permettre d'avoir un seul maillon pour chacune des étapes de la chaîne. Sinon, la chaîne, elle est faible du plus faible de ses maillons. Et donc, s'il casse, tout s'effondre. Donc, nous, on ne veut pas faire une chaîne, on veut faire une cotte de maille. C'est-à-dire que pour chacun de nos métiers, on sait faire, mais on partage le travail. Donc, quand on veut savoir faire, on apprend le travail, on devient tisseur, on devient confectionneur, on crée nos propres ateliers. Mais en plus, tous ces volumes de production qui sont la conséquence des achats de jeans 1083 que vous faites, eh bien, du coup, ils nous engagent à répartir ce travail entre nos ateliers et nos confrères. De telle sorte à ce que s'il y a un incendie chez nous, par exemple, si notre atelier de confection connaît un incendie, imaginons le pire, eh bien, si on a d'autres confectionneurs, notre activité de vente continue et notre activité de tissage continue. Et comme ça, on crée une résilience collective. En fait, c'est une forme de mutualisation de moyens et de risques que l'on constitue ensemble et qui est un accélérateur de création d'emplois, de création de filières. Pourquoi ? Parce qu'on s'entraide. Les galères que l'on a dans notre atelier de confection, on les partage avec nos confrères confectionneurs. Il y en a 3-4 qui ont des stands ici aussi. Et on se donne des tuyaux. Et en fait, on gagne en compétitivité. Donc, on augmente nos capacités de production. Et comme l'augmentation des ventes est plus rapide que l'augmentation des capacités de confection, parce que c'est laborieux, au beau sens de labeur, de créer des emplois, des formations, on a dû créer l'école du jean, tout ça, c'est subi en quelque sorte. Mais c'est subi génial, c'est-à-dire que c'est plein de rencontres, c'est plein de passions, c'est plein d'essais, plein d'erreurs. Mais voilà, comme vous le vivez tous, dans le chanvre, dans le lin, dans la laine, dans le lin, et dans le lin, c'est galérien, mais c'est passionnant en fait. On rencontre plein de gens, c'est plein d'aventures humaines. Et je pense que tisser des liens, c'est la mission des tissages de Cherlieu. Et je trouve que ça résume très bien ce qu'on doit faire chacun dans nos filières respectives et dans nos croisements de filières, parce qu'en vrai... tout est imbriqué. Et plus on imbriquera les choses, plus on sera robuste, plus on créera d'emplois, plus on développera notre écosystème. Et plus en plus, on prendra du plaisir en rencontrant des gens cool. Voilà.
Bravo. Ce tricotage, ce tissage de liens, il est très fort dans la filière linéaire. Olivier, tu vas bénéficier de d'une aide France Relance pour recréer une filature de lin en France. Il y a un très fort mouvement au niveau européen pour pouvoir recréer des outils de filature. Cette question de l'échelle et de l'émulation, d'avoir assez d'acteurs qui travaillent ensemble sur le papier concurrent, mais en fait, non, pas tant que ça. À quel point ça fait la spécificité du lin européen?
Déjà, pour rappel, je pense que ceux qui ont pu suivre ces dernières années les reportages sur la filière lin, on a surtout mis en avant que c'était une filière agro-industrielle française et qui ne faisait que s'exporter et s'exporter très loin. On a souvent passé sous silence le fait qu'il y avait quand même encore quelques entreprises qui avaient résisté à cette mondialisation et qui avaient essayé de continuer de produire au plus proche possible des bassins de production. Et notamment, nous, Safilin, nous avions continué de produire en Europe, en Pologne, à proprement parler. Avec beaucoup de difficultés, il faut le dire, et à l'époque, c'était vraiment un choix, éthique de la part de la famille la famille Salmon, de rester le plus proche possible du bassin de production. On nous a dit à l'époque, mais vous êtes fous, restez en Europe, c'est fini, d'abord le textile est moribond, vous ne tiendrez pas, etc. Or, il s'avère que depuis déjà maintenant quelques années, produire en Europe, c'est plus si mal que ça, c'est même plutôt intéressant. Et là, je rends un peu hommage à Thomas. Il dit qu'il est un peu frais dans le textile, 13-14 ans. Lors de tes premières années, je pense, dans le textile, on avait eu nos premiers échanges et tu avais fait un constat d'étonnement en disant, mais en fait, en France, on produit du lin. Et tu étais extrêmement étonné qu'on ne le transforme plus en France. On a eu un débat à l'époque sur la filature et croyez-le, remontons 8 ou 9 ans en arrière, j'étais le premier à argumenter sur le fait que produire en France, ce n'est pas possible. Or, aujourd'hui, je suis le porteur d'un projet, et plus qu'un projet, puisque là, la mécanique est lancée, de remettre un outil de filature en France. Tout ça, j'ai pu le faire au gré des rencontres qu'on peut faire au sein de la filière, des acteurs du lin, mais aussi des acteurs extérieurs qui nous bousculent et qui nous amènent à penser différemment. Évidemment, le monde change, le monde évolue, les attentes des consommateurs, la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux, m'ont amené à revoir ma copie et à me dire, mais finalement, au lieu de balayer d'un revers de la main le fait d'un jour reproduire en France, peut-être qu'il faut que je m'y intéresse. Et puis, conjointement, au gré des rencontres et des échanges plus ou moins récents, nous avons été poussés, sollicités, à la fois par des acteurs de l'amont qui nous disent, mais écoutez, nous, ce n'est pas avec plaisir qu'on envoie forcément notre matière à l'autre bout de la planète. Et même si ça fait partie d'un marché mondialisé, on regrette et on déplore qu'on ne puisse pas aussi, en parallèle, le transformer un peu plus proche. Et donc là, ce sont nos partenaires qui sont les liniculteurs et les tailleurs qui nous ont un peu bousculés. Mais également l'aval de la filière qui se veut le relais de la voix, de votre voix, de la voix du consommateur qui dit, mais en fait, nous, on a aussi envie de consommer mieux, de consommer différent. Et alors qu'en fait, avec notre outil en Europe, on aurait pu se dire c'est suffisant, c'est satisfaisant, puisqu'à la limite, aujourd'hui, les tendances de fond et de marché font que le marché vient à nous. J'ai eu envie d'avoir un rôle, de jouer un rôle, et donc de prendre aussi ma part d'initiative ou de risque en me disant ben, c'est peut-être le moment de franchir le pas et puis d'essayer de remettre un outil en France. Alors effectivement, dans un contexte Covid, il y a eu des facilités, effectivement, et très clairement, l'État joue son rôle. Il vient accompagner, il ne vient pas subventionner n'importe quel projet, mais des projets qui ont du sens, des projets qui vont permettre de s'inscrire dans la durée, de redonner de l'emploi. Donc clairement, nous en avons bénéficié. Mais en fait, rien ne se serait fait et ça ne se serait pas fait uniquement s'il y avait les soutiens de l'État. Ça se fait aussi parce que, encouragé par les gens en amont de la filière, par vous les consommateurs, par vous les acteurs industriels et de la distribution, en disant mais oui, il faut y aller parce que c'est probablement un des axes d'avenir pour une consommation textile bien plus vertueuse.
Mais on ne peut y aller qu'ensemble. Est-ce que cette émulation, il y a finalement dans les matières naturelles plus probablement que dans les matières synthétiques en tout cas, il y a cette notion de pluralité. On dit le lin, on dit la laine. En réalité, le lin, c'est 32 espèces différentes qui sont cultivées, assemblées pour pouvoir obtenir un niveau de qualité, un niveau d'exigence qui va correspondre en fait à sa transformation. Pareil pour la laine, on va classer les laines par race, par micronage, pour pouvoir faire des mélanges, un peu comme on le fait dans l'œnologie. Clin d'œil à Jean-Louis qui a un passé dans l'œnologie. Comment est-ce que l'échelle européenne, toi qui dirige l'innovation à la CELC, quel impact sur l'innovation justement de ce dialogue et de cette émulation?
Il y a un élément important aussi qu'a précisé Olivier et je laisserai compléter. C'est dans ce duo qui est incarné et qui est interdépendant exclusif à la filière lin représentée par le filateur et le tailleur, c'est une notion d'assemblage. L'assemblage, c'est une spécificité du lin, parce que pour avoir un bon fil de qualité homogène, c'est plusieurs lots de différentes parcelles, de différentes régions, de différentes années. Et ça, c'est un savoir-faire qui est unique. Après, je pense que la filière lin incarne aujourd'hui une dynamique européenne en termes d'innovation et de créativité. C'est une filière qui est agro-créative, on aime bien ce terme-là à la CEC, mais c'est incarné aujourd'hui par toute la R&D fondamentale et appliquée qui est engagée au sein de la filière, à chaque maillon de production et de transformation, pour donner lieu aujourd'hui à un foison d'innovation. Et je prendrai juste quelques exemples. La maille de lin qui est aujourd'hui à tous les niveaux de gamme, avec différents niveaux de qualité, mais qui a permis aussi que le lin soit représenté en été et en hiver, hein, donc un lin 4 saisons, avec limiter le frein aussi sur l'infroissabilité. Toute la partie du lin lavé qui a permis de démocratiser avec ce jeu de couleurs. Et puis, on parle aussi ici des hybridations, des mélanges de fibres, les lins laine, les lins avec d'autres matières, à la fois naturelles mais aussi synthétiques. Ces hybridations, elles apportent aujourd'hui une complémentarité en termes de performance et d'usage.
Est-ce que... Alors, je vais prendre ma casquette deux secondes parce que je pense que je trompe personne de délégué général du collectif Tricolore. Mais dans la laine, recommencer une filière de laine française, c'est extrêmement compliqué parce que justement, on n'a pas la connaissance de tous ces lots différents, tout est mélangé. Donc, c'est difficile, le meilleur avec le plus mauvais, c'est difficile d'aller répertorier toute la diversité des lots, de qualité, etc. Dans le chanvre, j'imagine, quand vous partez de zéro également, comment est-ce que ça se passe? Il y a aussi diverses espèces, comment ça s'articule?
Dans le chanvre, effectivement, on part de bien moins loin, donc il y a tout un travail variétal à faire. Et, bon, effectivement, en France, on a la chance d'avoir le semencier chanvre principal en Europe, mais qui a développé l'essentiel de ces variétés pour des applications qui étaient plutôt liées au bâtiment. Donc il y a un travail variétal qui est fait sur des variétés qui seront plus textiles. Mais bon, évidemment, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça prendra un peu de temps. Et je pense, enfin, je parle sous le contrôle d'Olivier, mais il va se faire la même chose dans le chanvre que dans le lin, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mélange des matières suivant les millésimes, etc., pour avoir une qualité de fil constante. Après, sur les mélanges des matières, moi, je voudrais juste rebondir là-dessus. Nous, à l'atelier, on fait beaucoup de mélanges, notamment entre la laine et le chanvre. Bon, le chanvre et le lin, même si bon, peut-être l'intérêt est moins fort. Mais, bon, d'une part, déjà, ça plaît beaucoup. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans. On fait aussi des tests. Il y a des gens qui ont fait des tests par le passé sur lesquels nous, on s'appuie pour refaire des essais de mélange de chanvre et de laine dans le fil intime et qui permet en plus d'utiliser des filatures cardées, etc. C'est très intéressant. On verra quelles propriétés ça apporte, on verra quelle solidité. Mais moi, comme disait Thomas, je crois que vraiment la solution, elle vient d'un bouquet de matières, de croisements, etc. Et c'est comme ça qu'on répondra à tous les besoins du marché. Voilà.
Si je peux me permettre, j'ajouterais que la question que tu poses, c'est la difficulté au démarrage en fait, d'aller structurer une filière. Et là, encore une fois, ça rejoint la notion du collectif. Parce que la filière chanvre, la filière laine, comme la filière lin, eh bien, elle ne se crée pas ex nihilo, elle a besoin d'échanger avec différentes strates de la filière. Aujourd'hui, Safilin est impliqué également dans les développements du chanvre. Et en fait, on joue aussi notre rôle de conseil pour accompagner, guider, driver, en s'appuyant sur l'expérience acquise à travers la filière lin, dont on a le sentiment qu'elle a une certaine maturité, en tout cas acquise. Eh bien, le fait que l'on travaille de manière conjointe va permettre d'aller probablement plus vite et de s'appuyer sur ces échanges de connaissances et de savoir-faire pour aller un petit peu plus vite dans le déploiement de la filière.
Je confirme, effectivement, c'est très important. Ça appuie encore plus, à mon avis, ce que tout le monde appelle l'écosystème, c'est que la proximité des acteurs, en termes de R&D, d'échange, de partage de savoir-faire, de retour sur expérience, etc., ça va, c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut faire quand votre intermédiaire est à 10 000 km. Quoi.
Et encore une fois, quand on parle de proximité, on entend il y a la proximité des personnes et ça passe par la proximité géographique. On a tous vécu depuis un an et demi des apéros par visio, des salons par visio. Je crois que tout le monde est heureux de se retrouver. Et aujourd'hui, il y a des savoir-faire qui sont disséminés dans le monde, mais rien d'aussi pertinent et efficace que de se rencontrer autour d'une table, d'échanger dans une usine, autour d'une machine, de rencontrer, de constater les difficultés et de les régler. Et ça, c'est la proximité géographique qui peut le faire. Nous, l'outil qu'on remet en France, l'outil de filature qu'on remet en France dès début 2022, va aussi permettre de travailler encore mieux en proximité, en partenariat avec l'amont de la filière lin, mais également avec des acteurs de la filière chanvre pour de la mise au point, et va jouer aussi son rôle d'accélérateur et d'accompagnateur.
Alors, leur tourne, effectivement, on voit bien que c'est dans ce dialogue et dans cette mutualisation et dans les échanges. Peut-être pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, peut-être que le fait qu'il y ait moins d'acteurs en fait notamment sur les maillons textiles, fait que c'est devenu plus compliqué de bien connaître toutes les techniques, de bien connaître le maillon avant soi, le maillon après soi. Mais en même temps, c'est aussi peut-être plus facile aujourd'hui, comme il y a moins d'acteurs, de pouvoir établir un dialogue, partager, faire connaître son métier à la fois au maillon avant soi, au maillon après soi, pour pouvoir imaginer des choses ensemble et aider ses clients ou ses fournisseurs à être plus pertinents dans le développement des filières. Quoi.
Je pense que le fait qu'il y ait moins d'acteurs, ça désinhibe aussi ces acteurs-là. Et là où, avec plus d'acteurs, on pourrait craindre effectivement une notion de concurrence, on a besoin de garder de l'exclusivité, là, pas du tout. Étant donné qu'en fait, on est tous dans le même bateau avec la même ambition, mais que seul, on n'ira pas, eh bien, ça oblige, par la force des choses, les acteurs à travailler ensemble et finalement, en toute sérénité, puisque effectivement, eh bien, on va être plutôt dans le partage que dans la méfiance. Et ça, c'est vraiment un message fort lorsqu'on parle de cohésion filière ou interfilière, hein, puisque finalement, là, on est sur une thématique interfilière. On n'est pas dans une thématique de méfiance et de chacun pour soi, mais bien au contraire, d'avancer ensemble.
Merci. Ben, peut-être on va conclure nos échanges entre nous pour ouvrir un petit peu la parole et les questions à la salle. Je regarde par là-bas si le micro peut voyager. Alors, on va vous demander de ne pas prendre le micro en main. Mais plutôt, lever la main et puis l'hôtesse vous tendra le micro. Il y a une première question ici.
Oui, bonjour, ça fait plaisir en effet aujourd'hui, enfin, que le textile français travaille ensemble, parce que j'ai connu un gros textile français, Safilin en France, hein, ne serait-ce, qui s'est bouffé entre eux, et aujourd'hui, en effet, il ne reste plus rien. Néanmoins, dans tout ce que vous avez dit, il manque quand même deux choses, hein, qui est le produit fini, et jusqu'au consommateur. Le consommateur, la consommatrice, est devenu citoyen. Et elle a besoin de savoir d'où vient son produit, qui l'a fait, comment ça a été fait. Et en fait, tout ça, c'est pour définir une filière de traçabilité et de transparence. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir bosser, c'est aller jusqu'à la traçabilité complète du produit. Donc c'est intéressant au niveau du chanvre, au niveau de la laine. Le lin, je pense que ça va être bien aussi, mais il va falloir encore aller plus loin dans tout ça. Sur la transparence, comment ça a été fait, qui l'a fait, et c'est pour ça que vous travaillez, et je pense qu'il va falloir encore plus développer ça. Et il manque une filière, il manque une petite étape dans votre filière qui est l'ennoblissement. Parce que, comme vous disiez, le produit brut, bah on en discutait tout à l'heure avec Mathieu, le produit brut, c'est bien, c'est sympa, mais la cliente finale, c'est dur, c'est moche, ça n'a pas de main, et c'est horrible à porter. Donc, c'est un peu le bonnet péruvien. Donc, c'est l'ennoblissement. C'est cette finalité, en fait, pour rendre le produit agréable, marchand, et qu'il amène quelque chose en plus, et qu'on puisse démontrer qu'en France, en effet, on puisse avoir de belles mains, une belle qualité de matière, avec de beaux produits finis.
Alors, votre intervention pose plein de questions. La transparence, l'ennoblissement, qui veut prendre la parole.
Je peux démarrer, mais je pense qu'ensuite Julie aura des choses à dire. Effectivement, on l'a peu mentionné, tellement pour nous c'est évident. C'est évident que les démarches qui sont initiées, elles doivent s'accompagner d'une transparence totale vis-à-vis du consommateur. C'est ce qu'il attend. Il y a eu tellement de scandales ou de choses tues qui font qu'aujourd'hui, il y a peut-être une perte de confiance, hein, probablement, de la part du consommateur. On a la chance d'être sur des filières. Des petites filières et sur lesquelles la mise en œuvre d'outils de traçabilité qui est en marche, hein, c'est une démarche qui a été initiée et pas d'aujourd'hui, hein, ça fait déjà quelques années qu'on a commencé, notamment dans la filière lin, à réfléchir aux outils de traçabilité et à la captation de données et comment la transmettre. Eh bien, effectivement, ça fait partie intégrante de la démarche de reproduire local. Il va falloir que le consommateur ait confiance dans le produit et la confiance, ça commence par la transparence. La transparence, ça ne veut pas dire que tout est bien, tout est parfait. Ça veut dire qu'on annonce ce qu'on fait, on dit ce qu'on est, on dit ce qu'on fait. Et effectivement, c'est une démarche qui est mise en œuvre. Mais peut-être que Julie, tu peux ajouter un.
Je voudrais compléter, préciser aussi que le lin évolue aujourd'hui, le lin européen évolue aujourd'hui dans un contexte qui est local, français, mais au-delà de ses frontières européennes et aussi mondialisé. Ça sera un premier point. Notre enjeu aujourd'hui, et nous y travaillons, la filière lin n'est pas en reste, sur des enjeux de traçabilité, de transparence pour embarquer et créer ce contexte favorable à ces entreprises, justement, sur répondre aux consommateurs. On parle aujourd'hui de consumer facing, on parle aujourd'hui de communication environnementale, on parle aujourd'hui de green claims. Il y a des réglementations qui vont arriver, donc il faut s'y atteler. Le Covid a accéléré nettement les choses, donc des préoccupations qui étaient là, qui s'accélèrent. Il faut pouvoir embarquer les acteurs qui doivent aussi répondre à leur niveau, à chaque maillon de production et de transformation. Et la filière lin, au niveau du collectif, met en place aujourd'hui ces indicateurs scientifiques, ces outils qui vont permettre demain à ces acteurs de la chaîne de valeur de répondre aux consommateurs. Donc ça passe par des outils de traçabilité, des actions qui sont structurantes, qui seront derrière en stade expérimental, en vue d'être déployée à la fois sur la filière lin, mais également sur la filière Modelux. Et ça passe également par des démarches structurantes au niveau européen sur tout ce qui est empreinte environnementale des produits textiles, avec des méthodologies qui sont en cours de révision, dans lesquelles nous, CUSC, on est partie prenante et dans lesquelles on construit, on co-construit avec nos amis d'autres organisations, mais également d'autres fibres pour, en tout cas, révéler les spécificités des fibres naturelles et les spécificités des fibres de lin.
Et, ouais, juste sur la traçabilité, parce que la traçabilité, finalement, c'est un moyen, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de donner des éléments de réponse, mais l'attente du consommateur, elle va au-delà de savoir où, quoi, elle veut savoir combien, quel est l'impact environnemental, combien je crée d'emplois également. Ou combien je maintiens d'emplois dans une région donnée. Voilà. Donc, la traçabilité, ça va être un support, mais qui va permettre de nourrir l'image du produit auprès du consommateur sur un périmètre plus large que simplement où est-ce que c'est fait, mais quel est son impact environnemental, quel est son impact social également.
Et pour compléter simplement sur la transparence, je rejoins tout ce que vous dites, c'est un prérequis du marché aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est nécessaire. Mais la conséquence de ce prérequis du marché, c'est qu'aujourd'hui, vous consultez le site de H&M et vous consultez le site de 1083, on dit exactement la même chose. Et les moyens de transparence qu'ils déploient à une vitesse grand V sont tout autant puissants que ceux qu'on peut déployer avec nos petits moyens. Donc en fait, pour moi, la transparence ne va plus être un élément discriminant. C'est-à-dire qu'on va tous le faire, parce que vous tous, nous tous les consommateurs, on l'impose aux consommateurs. Et à mon sens, qu'est-ce qui va être le pouvoir magique de demain pour les commerçants, les vendeurs? Ce sont les usines. Parce que ça, avant que H&M, Levi's et compagnie les rapatrient localement, eh ben en fait, il va se passer du temps. Et entre lire des informations et les vivre, comme quand, si vous aimez le vin, je crois qu'il y a quelques amateurs, voilà. C'est peut-être pas le seul, hein, ce que je veux dire.
On en parle après.
Voilà. Quand on goûte un vin chez Leclerc, ben il a un certain prix, un certain goût. La même bouteille de vin que l'on goûte chez le vigneron au même prix, elle paraîtra meilleure et moins chère. Et on va être autrement plus fidélisé à ce vin-là qu'on aura rencontré, comment c'est fait, par qui c'est fait, etc. Et ben, je pense que dans nos usines, c'est pareil. C'est-à-dire que ennoblisseurs, tisseurs, teinturiers, confectionneurs, etc., ouvrons nos usines aux consommateurs, ouvrons nos usines aux marques, accueillons les visiteurs dedans, parce que finalement, c'est le meilleur moyen d'engager une relation, non pas que rationnelle d'un consommateur avec un produit, mais des émotions, de l'irrationnel, un attachement qui protégera contre toutes les promotions, soldes, etc., que les H&M continueront, enfin pardon pour H&M, c'est des gens d'H&M, c'est un exemple, hein, mais que la fast fashion continuera d'user pour séduire les consommateurs toujours plus. En fait, il faut qu'on, en tant que consommateur, c'est un peu trivial ce que je dis, et pardon pour les oreilles chastes, mais pour moi, la consommation, c'est comme des plans cul. C'est-à-dire qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, et en fait, ça fait le job, pardon, pour, j'avais prévenu, hein. Pardon, pour, mais, et on enchaîne, et en fait, c'est creux en quelque sorte. Et nous, ce qu'on doit faire, si on veut que nos business s'inscrivent durablement, qu'on ait le temps de recréer des filières, former des personnes, réattacher les gens à ces savoir-faire, et bien, c'est de créer des histoires d'amour entre les gens et ce qu'ils consomment. Et en faisant ça, les gens vont consommer moins et mieux, et donc on va quitter cette consommation déraisonnable quantitative par une consommation raisonnable, mais en même temps qu'elle sera raisonnable, elle sera tout autant excitante, parce qu'en fait, on aura comment dire, un kiff à l'achat grâce à notre achat, mais on aura plein de kiffs avant et après parce qu'en fait ce sera riche de plein de choses qu'on aura vécues à travers cette consommation. C'est pour ça, ouvrons nos usines, c'est un pouvoir magique que les autres n'auront pas.
Je voudrais juste, pardon, compléter et rebondir aussi sur cette notion de traçabilité. La filière lin a mis en place, c'était déjà en 2013. 2013, le paysage de la traçabilité, de la transparence n'était pas à ce stade-là. A mis en place une marque de traçabilité qui s'appelle European Flags. Je les ai précisées au début. European Flags aujourd'hui vit une croissance fulgurante en termes. On est à 200, rien qu'en 2020, plus 269% de pourcentage d'augmentation. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a cette attente en termes de au niveau du marché final, des consommateurs. European Flags aujourd'hui est la garantie d'un lin fibre qui pousse sous nos pieds sur cette bande côtière qui s'étend de Caen-Amsterdam et promeut aussi toutes les valeurs différenciantes qui font que demain, le lin européen pourra se positionner.
Oui, donc là encore, ça se fait de manière mutualisée et on ne peut pas le faire à uniquement plus petite échelle ou en tant qu'acteur isolé.
Très court, parce que je partage aussi ce qu'évoquait Philippe et je partage l'idée que c'est un prérequis. La traçabilité, ça va faire partie du bruit de fond. Et comme toutes les valeurs éthiques dont ma société ne s'est jamais écartée, et je vois arriver beaucoup de monde qui rejoignent ces valeurs, ce que j'entends dans le discours de Thomas, c'est, hormis les blagounettes, c'est qu'on va devoir faire la différence et on va devoir savoir le faire savoir, nous, entre l'opportunisme et l'engagement. Et je crois qu'ici, je pense qu'on incarne tous des engagements.
Sachant que tous les opportunistes qui communiquent, qui greenwashent, etc., accélèrent la prise de conscience des consommateurs. Donc moi, je remercie le greenwashing parce qu'il y a 14 ans, quand j'ai créé ma boutique de vêtements bioéquitables, il n'y a rien de pire que d'être marginal. Et aujourd'hui, quand ces idées-là sont récupérées, et ben en fait, monsieur, madame, tout le monde qui les entend se dit « Ah ben, en fait, même Carrefour, même Leclerc, même je ne sais pas qui le dit, donc en fait, ce que disait 1083, ce que disaient les uns les autres, c'est vrai, et en plus, ils le font, on peut le voir. »
C'est ça.
Donc nous, les greenwashers accélèrent la prise de conscience des consommateurs. Un grand merci à eux.
Et à nous de savoir dire notre différence, exactement.
Alors, comme il va y avoir ce soir un chapitre 3 dédié à la transparence, ce sera l'occasion donc d'aller plus en profondeur, notamment avec la participation de Daniela Hoth, qui gère Aura, l'outil de transparence mis en place par LVMH, Richemont et Prada. Et puis surtout, l'idée de laisser les gens dans la salle poser des questions, ce n'est pas pour que vous accapariez derrière la parole.
Oui, alors tout d'abord, félicitations à vous tous hein, qui êtes vraiment des passionnés, des acteurs très importants de toutes ces filières de matières premières, je dirais, avant tout. Moi, j'aurais aimé que Thomas s'exprime maintenant sur le coton, parce que, bon, malgré tout, le lin, le chanvre, la laine, bien sûr, sont des fibres naturelles très, très, très agréables, très utilisées, mais le coton est la première fibre naturelle qu'on porte tous. Et donc, comment vous voyez votre lien, puisqu'en France, on ne produit quasiment pas de coton, donc comment vous voyez ensuite l'articulation avec cette culture du coton par rapport à votre propre filière?
Alors, donc le coton, il est plein de qualités, c'est pour ça qu'il est si utilisé, malheureusement, en quelque sorte, et cette surconsommation fait une surproduction qui est néfaste. Les deux problèmes du coton, c'est les pesticides et la consommation d'eau. Donc nous, on a décidé d'utiliser du coton bio exclusivement depuis le début, et du coton cultivé dans des pays qui sont naturellement irrigués en eau. C'est pour ça que tout le coton de 1083 vient de Tanzanie, parce que du coup, il n'y a pas d'irrigation artificielle. Donc on consomme beaucoup d'eau dans un pays où il y en a beaucoup, exactement comme le lin en Normandie. Donc il n'y a pas de sujet comme ça de déplacement d'eau nuisible. Pour produire localement du coton, puisque là, en 8 ans, on a relocalisé 7 des 8 étapes pour produire des jeans, la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la confection et le délavage, il n'y a que la matière première qu'on n'a pas réussi à relocaliser. Donc il y a deux stratégies. Soit on attend que le réchauffement climatique continue de faire son œuvre, on l'accélère tous ensemble, et dans quelques années, on pourra peut-être produire du coton en France, peut-être à la place du lin. C'est pas le scénario qu'on préfère. Nous, on considère qu'il y a énormément de coton dans nos placards. Ce coton-là, on ne sait pas l'exploiter, mais c'est difficile. Ça fait quelques années seulement qu'on s'est mis au recyclage textile, alors que ça fait des millénaires qu'on cultive le lin, le chanvre, la laine et le coton. Et donc, on a une concurrence comme ça déloyale de R&D générationnel qui a optimisé ces cultures-là. Ce n'est pas du tout le cas du recyclage. Donc, on réinvente les choses. Et pour réinventer les choses, eh ben en fait, si on ne met pas les mains dans le cambouis, si on ne s'intéresse pas au savoir-faire, finalement, on est faible de ne pas savoir par où commencer. Alors que quand on apprend des savoir-faire, qu'on redéveloppe des ateliers, des usines, eh ben on peut essayer des choses, expérimenter. Et en expérimentant, ben 9 fois sur 10, on se plante. Mais grâce à ces 9 échecs, des fois, on réussit des trucs. Et comme ça, petit à petit, on fait de la R&D, on avance. Et là, certainement que dans quelques semaines, moi, au Salon Made in France, Porte de Versailles, en novembre, on va certainement présenter le premier jean issu du recyclage des jeans qu'on collecte dans nos magasins. C'est artisanal, ce n'est pas encore industriel, mais il y a un an, c'était même pas artisanal, c'était du labo. Et donc, d'échec en échec, on avance pour produire notre coton et notre fibre localement, à notre sens, grâce au recyclage, en complémentarité des jeans en lin, en chanvre, en laine et en coton qu'on va continuer de proposer avec notre écosystème.
Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ?
Bonjour, je voudrais juste poser deux questions qui me semblent mettre le doigt, sur deux faiblesses quant aux matières premières. Premièrement, donc ça pousse sur des champs avec des agriculteurs, etc. Sachant que le monde agricole connaît déjà, mais ça va s'amplifier, un nombre assez élevé de départs à la retraite, va se poser la question de la propriété de ces sols sur lesquels peuvent éventuellement pousser ces matières, et ensuite tous les éléments, tout l'intérêt agronomique que peuvent poser, que proposent le lin et le chanvre. Et ensuite, tout ce qui peut être effectivement aussi changement climatique, seconde faiblesse. Est-ce que vous avez déjà plus ou moins des pistes sur des impacts sur ces cultures-là ? Donc, c'est une note un petit peu tristounette, mais je pense qu'il y a effectivement, on est vraiment dans le cœur de la matière première. Merci.
Je vais peut-être commencer à répondre. pour le chanvre en tout cas. Nous, on travaille donc en contractualisation avec des agriculteurs dans la région Occitanie, qui sont tous, jusqu'à maintenant en tout cas, même si on reste sur des productions modestes, très contents de travailler avec nous parce que c'est effectivement une culture qui est bien rémunératrice et qui est plutôt facile, même si je ne veux pas donner l'impression que ça se fait d'un claquement de doigts, mais enfin, normalement, ce n'est pas très compliqué à faire pour un agriculteur qui connaît bien son métier. Et c'est perçu par les agriculteurs avec lesquels on travaille, en tout cas, comme une culture qui leur permet, pour beaucoup, d'aller plus vite dans la transition en agriculture biologique, parce que c'est une vraie locomotive. En fait, le problème, c'est quand un agriculteur veut se convertir en bio, notamment ceux qui font des grandes cultures, ils sont coincés parce qu'ils n'ont pas forcément assez de filières. Si vous voulez faire de l'agriculture biologique, il faut que vous fassiez des rotations entre les cultures, ça prend plusieurs années, etc. etc. Donc c'est compliqué. Et donc le chanvre vient rajouter un élément. En plus, effectivement, c'est assez intéressant, puisque le chanvre est une plante qui pousse très, très facilement. Enfin, si on réussit bien la lever, en gros, on a gagné, quoi. Et ça pousse très facilement, il n'y a pas besoin de pesticides, il n'y a pas besoin de désherber, il n'y a pas besoin de... Voilà, et c'est un très bon précédent pour d'autres cultures, notamment des céréales, qui vont voir leur rendement augmenter derrière un chanvre, parce que c'est une plante qui va nettoyer les terres de tous les adventices qui peuvent apparaître. Et donc ça, c'est plutôt positif, et moi j'ai tendance à penser, j'espère que l'avenir me donnera raison, que c'est justement parce qu'on fait ça qu'il y a des agriculteurs qui vont pouvoir à la fois pérenniser leur travail et transmettre à d'autres. Après, vous avez tout à fait raison. Moi, j'habite en milieu très rural, dans le Lot, dans un village de 300 habitants où il reste 3 agriculteurs, et on a de la chance d'en avoir encore. On a la chance d'en avoir un jeune, les deux autres, ils sont à l'orée de la retraite. C'est une vraie question. On ne sait pas ce qui va se passer. Il va y avoir probablement une partie de concentration par certains agriculteurs qui vont racheter les terres qui sont à disposition. Mais moi, je pronostique, et j'espère aussi que l'avenir me donnera raison, qu'il va y avoir un appel d'air pour des nouvelles personnes qui vont venir travailler dans l'agriculture. On en voit les balbutiements, je pense que tout le monde perçoit ça. Est-ce que ça sera un mouvement de masse? Mais la nature a horreur du vide. Je veux dire, il y a un moment, il y a des gens qui vont utiliser ces terres et qui vont venir pour s'en occuper. Alors, de nouveau, il y a une question de transmission de savoir-faire. Moi, je crois beaucoup à ça. Après, sur la question du changement climatique, là, de nouveau, je parle aussi pour le chanvre. C'est plutôt une plante qui est un bon allié dans cette bataille, puisque c'est une plante qui a besoin de pas d'irrigation. Alors bon, c'est comme tout, je veux dire, s'il fait sec 6 mois d'affilée, ça ne poussera pas. Il ne faut pas non plus se leurrer, mais enfin, en gros, c'est une culture de vallée ou de plaine, et l'eau résiduelle du sol permet à la plante de pousser dans les années, même un peu sèches, sans besoin d'irrigation. Il est possible de mettre un ou deux tours d'eau s'il y a besoin à un moment pendant la saison, mais c'est sans commune mesure avec le maïs ou d'autres cultures qui vont sur les mêmes sols. Donc c'est plutôt, de ce point de vue-là, un bon allié. C'est une plante qui pousse presque partout. Il y en avait partout en France, même partout en Europe. Il y en avait même, il s'en pousse sur les contreforts de l'Atlas, il en pousse dans les steppes en Asie centrale ou en Europe de l'Est. Il en pousse dans des terroirs très très différents. Donc ce point de vue-là, je pense que c'est plutôt une alliée, cette plante. Voilà.
Pour compléter dans la filière lin, la notion de transmission patrimoniale, de ces valeurs patrimoniales, est essentielle. Le process de transformation du taillage, l'acteur, le tailleur, se situe à côté des champs, en lien avec l'agriculteur. Et on le voit aujourd'hui, il y a une vraie transmission de génération en génération.
Un rajeunissement, clairement.
Clairement, et c'est un enjeu. Et c'est un enjeu aussi dans ces sociétés où il faut pouvoir transmettre, parce que la culture du lin, ça ne s'apprend pas dans les bouquins.
Je pense que même ce qu'on peut dire en ce qui concerne la filière lin, c'est qu'on pouvait avoir des inquiétudes il y a quelques années, et c'est plus vrai aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, on partage tous ces valeurs-là, mais encore plus la génération qui arrive. Et là où peut-être il y a 20 ans, le fils partait faire ses études et disait « moi, je ne reprendrai pas l'exploitation familiale, je veux m'orienter vers la finance, vers ci, vers ça », aujourd'hui, il retrouve un attrait fort et vrai pour l'agriculture, pour la première transformation. Donc on est plutôt, pour la filière lin, plutôt serein de voir une jeune génération à nouveau s'intéresser, et pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, ça veut dire des raisons éthiques, des raisons financières et économiques également, s'intéresser à ces métiers-là. Donc je ne considère pas que la filière lin soit à risque du tout, au contraire.
Et puis sur la partie impact aussi du réchauffement climatique, ce sont des enjeux. La filière lin aujourd'hui est accompagnée par l'Institut Arvalis, qui est l'Institut du Végétal, qui est l'organisation institut référent pour suivre à la fois la partie itinéraire technique agricole, les itinéraires culturaux, et puis planche aussi sur tout ce qui est R&D en termes de variétal, en termes de formation aussi, mais également en termes de rotation des cultures, etc. Donc le potentiel en termes de données d'études est organisé au sein de la filière lin.
Sur la laine et sur l'élevage, on le voit avec le collectif tricolore. On rassemble donc la Fédération nationale ovine, qui représente l'ensemble des éleveurs ovins en France, la coopération agricole sur les coopératives agricoles qui apportent des services à ces éleveurs, et également les organismes de sélection génétique. Leur intérêt pour la filière lainière, qui clairement ne peut pas être aujourd'hui financier, va dans le sens justement de la valorisation de leur métier. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que ça peut, en complément des produits de l'élevage actuel, le lait, la viande, ça peut en complément attirer des gens plus jeunes dans ces métiers. Donc il y a très clairement, et c'est pareil d'ailleurs dans l'industrie, très clairement, il y a un enjeu dans la valorisation de ces filières de matières premières locales, il y a un enjeu d'attractivité pour que des jeunes aient envie. Et quand on rencontre des gens, des éleveurs ou des industriels aujourd'hui qui sont impliqués dans la transformation, il y a une vraie passion en fait de leur métier, et c'est ça qu'il faudra arriver à transmettre. Et je crois que le fait que les marques accompagnent ça et puissent drainer l'usage de ces matières va permettre d'améliorer l'image des métiers et de réattirer dans ces filières des jeunes générations.
Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on est un cas particulier dans la laine. La laine est la conséquence de l'élevage. En tout cas en France, elle n'est pas une des finalités initiales, mais en la valorisant, c'est un revenu additionnel, donc c'est tout bénéfice pour l'éleveur. Je ne sais pas au niveau national, mais au niveau de ma région, qui sont les laines qui se vendent le plus facilement, qui se valorisent le mieux jusque-là, on a eu 20% d'éleveurs en moins en 10 ans à peu près, mais la dernière promotion de l'école du Merle, qui les forme, était très importante, c'était une quinzaine. Donc il y a des vocations, et surtout c'est soutenu par une demande et par un manque de viande ovine d'ailleurs au niveau mondial qui fait qu'on c'est porteur, on peut compter sur une offre. La question c'est de la valoriser.
Je crois qu'il y a une question ici. Ah. Oui, allez-y.
Bonjour, j'avais juste une question très particulière. Vous aviez parlé, Julie Parizet, vous avez parlé de lin et de matière hybride avec un mélange de synthétique. Comment ça se passe pour la fin de vie, le recyclage de ces matières-là quand c'est mélangé entre naturel et synthétique?
Si j'avais la réponse, le recyclage, on le sait, c'est un enjeu. Aujourd'hui, les filières de recyclage sont balbutiantes avec des projets qui sont au stade de la démonstration. Donc là où je parlais plus sur des mélanges de performance et j'avais un exemple en tête qui était le fil, par exemple, de lin-laine, dont d'ailleurs Safilin, on a fait une démonstration en mélange intime, je crois. Après, bien évidemment, toutes les notions du recyclage sont des préoccupations aujourd'hui et bien intégrées d'ailleurs dans les feuilles de route, surtout de la Commission européenne, notamment dans tout ce qui est Product Environmental Footprint, donc c'est inscrit également dans les feuilles de route. Donc aujourd'hui, toutes les filières planchent là-dessus. Donc là, je ne me permettrai pas d'aboutir, puisque aujourd'hui, on n'a pas encore de filière de recyclage pour pouvoir initier. Et les mélanges aussi de lin filière synthétique sont minimes.
Après, je me permets de rebondir en deux mots. C'est une question très importante, parce qu'en fait, donc les mélanges intimes, quand on parle de mélange intime, ça veut dire que dans le fil, les fibres sont croisées, mélangées entre elles. Du coup, quand on fait ça, ça a des vertus, ok, mais c'est impossible à recycler. On ne va pas à la pince à épiler de trier les fibres. Et en fait, ça, c'est quelque chose que les metteurs en marché et tout l'amont de la filière du metteur en marché doivent intégrer, c'est qu'il faut absolument qu'on conçoive des produits pour qu'ils soient faciles à recycler. On a des enjeux majeurs au niveau du réchauffement climatique, des changements géopolitiques du monde. On arrivera à tenir ces engagements si on crée des produits simples, faciles à réparer, faciles à recycler. Ça doit être dans nos cahiers des charges aujourd'hui. Et donc l'innovation à tout prix, pour nous, c'est non. L'innovation, elle doit être comptable de ces enjeux-là. Et donc, c'est pour ça que nous, par exemple, on limite au maximum l'élastane et on évite de mélanger les fibres, surtout quand elles sont synthétiques et naturelles, parce que c'est des bombes à retardement qui sont derrière irrecyclables. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui de ne pas créer ces bombes à retardement pour demain. Donc on se l'interdit. C'est un peu cash, mais...
Bonjour, je suis Marie-Emmanuelle Belzinck, je suis la déléguée générale de la Confédération européenne du lin et du chanvre. Je voulais juste compléter par rapport à la question sur l'enjeu matière première. Il y a une notion qui n'a peut-être pas été évoquée, c'est la rémunération. À un moment donné, c'est l'économie aussi qui décide. Et la question de la rémunération est absolument primordiale. À partir du moment où les cultures, lin, chanvre, laine, sont rémunératrices à chaque stade de transformation, c'est-à-dire qu'il y a une valeur ajoutée, soit, mais également une valeur économique et qu'il y a une rétribution juste, on aura toujours des productions. Et concernant le lin, pour compléter, effectivement, les productions de chanvre, elles sont dans le monde entier, dans l'Europe entière et en France. Il en a été de même dans le lin, dans le temps. Je suis alsacienne et j'ai tendance à le raconter à chaque fois. Il y a un village à côté de chez moi qui s'appelle Flaxlanden, ce qui, en bon français, veut dire le pays du lin. Aujourd'hui, on n'y fait plus de lin, c'est plus le sujet. Mais il y a possibilité, au-delà des réchauffements climatiques, grâce à l'R&D variétale et les plus grands producteurs de semences qui vont aller faire des croisements sans OGM, à la différence des producteurs de lin oléagineux canadiens, par exemple, on s'interdit, nous, les OGM, vont aller faire des croisements pour avoir des variétés plus résilientes et puis plus résistantes, effectivement, aux nouvelles conditions climatiques. Voilà, j'arrête là. Merci.
Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Les variétés qui sont utilisées aujourd'hui sont le fruit en fait de la prise en compte de cette adaptabilité nécessaire à des évolutions climatiques. Et les variétés qui sont aujourd'hui utilisées, elles ont des propriétés qui les rendent plus résistantes au climat d'aujourd'hui. Et le travail sera fait pour les évolutions climatiques à venir.
On va peut-être prendre une dernière question. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps.
Je profite de la dernière. On n'a pas du tout parlé de la maturation du rouissage et j'aimerais bien savoir quelles sont finalement les conditions dans les autres régions. Je sais que le lin, forcément, c'est le nord. Maintenant, pour le chanvre, quelles sont les possibilités de le cultiver dans d'autres régions de France ?
Pour le chanvre, comme je disais, donc on peut vraiment le produire dans beaucoup d'endroits en France, mais aussi dans d'autres pays, hein, dans le monde entier, il y a beaucoup d'espace pour le chanvre. Après le ruissage, effectivement, historiquement, le ruissage du chanvre se faisait à l'eau. Alors, on plongeait le chanvre dans les rivières ou dans des bassins. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que nous, on est tombé dans nos recherches sur des arrêtés préfectoraux très anciens, vraiment du début du 19e siècle, où il était formellement interdit de rouir à l'eau dans les mares, dans les centres des villages, parce que c'était pestilentiel. Et puis aussi, on a commencé à avoir des arrêtés courant du 19e siècle, où on interdisait de rouir le chanvre dans les rivières, parce que ça détruisait tout l'oxygène des cours d'eau et ça tuait les ressources halieutiques. Donc c'est formellement interdit dans l'Union européenne de rouir à l'eau en milieu ouvert. Et en milieu fermé, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais eu vent d'essai là-dessus, où on retraiterait l'eau derrière. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rouille au champ. Donc on laisse, comme pour le lin, la plante au sol. Et en fait, c'est l'action de l'humidité résiduelle du sol, de la chaleur, du soleil, etc., qui va permettre aux pectines et aux lignines qui sont dans la plante de se décomposer, de commencer à libérer la fibre, hein, qui après est libérée par le défibrage complètement. Mais voilà. Et ça, c'est vrai que là, pour vous parler des vallées d'Occitanie, le climat s'y prête particulièrement bien parce qu'on fauche en gros au 15 août, pour dire rapidement. Et puis ensuite, on va laisser la plante au sol, en gros 10 jours d'un côté, 10 jours de l'autre pour le rouissage. Et dans l'état actuel du climat, en espérant que ça ne s'aggrave pas trop, il y a des orages à cette période-là. Et donc, du coup, il va pleuvoir un côté sur... Et le soleil est toujours très fort. Donc, vous allez osciller entre des journées où vous allez avoir de l'humidité. Puis ensuite, ça va taper avec un soleil. Il va faire 30 degrés, et puis, etc. Et donc, ça permet d'avoir un bon rouissage. Voilà.
Je pense que là, vous avez mis le doigt sur un des points importants, parce que tout à l'heure,
tu nous as parlé des hectares en chanvre et dont on sait qu'ils ne sont pas encore ou très peu dédiés au textile. Et c'est là où l'approche et les synergies entre les acteurs du lin et du chanvre est importante, puisque, tu me corriges, hein, mais dans les usages actuels du chanvre, le niveau de rouissage joue un rôle, mais probablement moins important que pour aller chercher demain des fibres textiles. Et donc, cette prise en compte des zones de production, et quand tu disais tout à l'heure que le chanvre pousse partout, c'est vrai, est-ce qu'il pourra rouir partout? Je pense que c'est peut-être probablement l'enjeu de la question. Probablement pas, et ça va venir forcément circonscrire les zones de production pour un chanvre à destination textile. Et on va forcément se rapprocher, ce qui ne veut pas dire exactement les mêmes zones que pour le lin, mais en tout cas des régions de France en l'occurrence, qui auront en fait le climat qui permettra de faire ce rouissage naturellement.
Oui, enfin, là, je te rejoins. Après, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul encore sur le chanvre, mais certainement qu'il y aura des zones dans lesquelles effectivement le rouissage du chanvre sera beaucoup plus optimal, et effectivement c'est là que sortiront les meilleures fibres textiles, et que c'est là que se concentrera cette production-là. Et puis peut-être dans les autres régions, il y aura de la production de chanvre pour de l'isolant, du bâtiment, de la graine, etc., qui auront d'autres... Voilà, comme pour le lin d'ailleurs, hein. Il y a le lin textile en Normandie, et puis nous dans le sud-ouest, on a plein de lin oléagineux, et voilà, c'est...
Eh bien, merci. C'est passionnant de vous entendre chacun raconter l'origine des matières qui vous animent. On voit qu'il y a un fort potentiel pour la France de jouer un rôle au niveau européen, au niveau mondial, par rapport à ces productions-là. On voit aussi qu'il y a beaucoup de travail sur la planche et que sans mutualiser, sans travailler tous ensemble, probablement qu'on ne va pas y arriver. Donc, on s'augure que le futur soit propice à tous ces développements. Cet après-midi, à 15h, c'est Nathalie Ruel qui prendra le relais sur une thématique connexe. Et je vous remercie infiniment une dernière fois. Et je vous remercie tous et toutes. Merci.